Après l'Amazonie, la Californie, la Sibérie, l'Australie est confrontée depuis plusieurs semaines à des incendies de grande ampleur. Entre 8 et 10 millions d'hectares ont déjà brûlé à ce jour. Et la liste des incendies qui embrasent la planète n'en finit plus de s'allonger. On parle depuis d'ailleurs quelques temps des méga-feux, un phénomène d'incendie hors normes et dévastateur. Ces immenses brasiers sont-ils en train de se multiplier? Quelles en sont les particularités? Eh bien, on en parle dans un instant avec mes invités et on fait le point évidemment sur la situation en Australie avec vos questions dès maintenant au 0145 24 7000, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert avec vous dans quelques minutes en Australie également.
Oui, et moi je vais vous parler des conséquences sur la biodiversité. On parle maintenant d'un million de milliards d'animaux tués.
Bonjour Caroline Tourbe.
Bonjour Mathieu.
Votre
bonjour,
chronique détox comme tous les vendredis.
Oui, on va parler météo et climat, même combat ou pas.
Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Laetitia qui est designer près de Nantes et qui propose des petites maisons éco-conçues sur remorque, on appelle ça les tiny house. Et puis enfin, nos invités découvertes seront les chercheurs Benoît Pujol et Serge Plane. Ils vont nous parler des poissons clones qui n'arriveraient plus à s'adapter aux modifications de leur environnement. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Charles Pélabon et Grégory Wallon.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. France Inter.
Les méga-feux dans le monde et la situation en Australie, c'est donc le dossier de l'émission cet après-midi avec nos deux invités qui sont en duplex avec nous, des studios de France Bleu Provence à Aix, Thomas Kurt et Sébastien Lahaye. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Thomas Kurt, vous êtes spécialiste des incendies forestiers à l'INRAE d'Aix-en-Provence, qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et Sébastien Lahaye, après avoir été sapeur-pompier pendant 20 ans, eh bien vous avez soutenu l'an dernier une thèse de doctorat sur les grands feux européens et australiens, notamment dans les Nouvelles-Galles du Sud, donc en Australie. Vous avez vécu pendant un an, donc vous connaissez bien ce paysage et la situation sur place. Thomas Kurt, pour commencer, après donc la Californie et l'Amazonie, tous les regards sont maintenant tournés vers l'Australie avec ses incendies de grande ampleur. Et on entend de plus en plus cette expression de méga-feu pour caractériser ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on assiste vraiment à un développement des incendies de forêt d'ampleur mondiale aujourd'hui ?
Oui, on ne peut pas nier que depuis au moins une décennie, le terme de méga-feu s'est imposé. Méga-feu, ça veut dire des très grands feux, des très très grands feux, des feux qui vont faire des milliers, voire des centaines de milliers d'hectares, comme en Australie. Effectivement, on peut se poser la question s'il y a une évolution et un développement de ces feux, parce qu'on les voit apparaître fortement, aussi bien en Australie, aussi bien on les a vus en Californie, au Canada, en Russie, aux États-Unis. Donc, ils sont un peu partout.
Mais est-ce que c'est un nouveau phénomène ou est-ce qu'on le connaissait déjà par le passé et finalement on en parlait moins ?
Oui, ce qui est nouveau, c'est la taille souvent de ces très grands feux qui auraient tendance à augmenter et surtout leur fréquence plus importante depuis quelque temps, au moins une décennie. Et derrière ça, il y a des explications climatiques et des explications liées à la végétation.
Alors c'est quoi ces explications ? Puisque justement, on entend beaucoup parler de l'impact et de la cause du réchauffement climatique. C'est d'ailleurs aussi un sujet de controverse en Australie en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire, Thomas Kurt, alors ?
Ces méga-feux, c'est méga pour très grand, hein, ces très grands feux, ils sont présents dès lors qu'on va avoir une combinaison, un cocktail de trois choses, c'est-à-dire des situations météorologiques exceptionnelles, beaucoup de sécheresse, de chaleur, de vent, c'est le cas exactement en Australie en ce moment, mais aussi il faut qu'il y ait beaucoup de végétation combustible dans le paysage, dans les endroits qui vont brûler. Quand on a à minima ces deux conditions, on peut avoir un feu qui va se déplacer très rapidement et qui, dans la végétation très sèche, va être capable de s'étendre très vite. Et au fond, ces méga-feux, ce n'est pas simplement des feux de très grande surface, c'est souvent des feux de très grande intensité.
Et est-ce qu'on peut dire que le réchauffement climatique est directement responsable de ces feux, alors, ou pas ?
C'est toujours compliqué de trouver d'attribuer directement un événement à des changements climatiques. Ce qui est certain, c'est que les changements climatiques se traduisent notamment à l'échelle mondiale en premier par une augmentation des températures, aussi une augmentation des périodes de sécheresse. Et ces deux conditions, déjà à elles seules, suffiraient à rendre la végétation plus combustible, plus inflammable. Quand vous avez une sécheresse de longue durée, c'est le cas en Australie, et quand vous avez des températures très fortes, toute la végétation est complètement desséchée. Dans ce cas, le feu, s'il démarre, va être très dynamique, très intense et se propager très rapidement.
Est-ce qu'en Europe, les feux de forêt seraient aussi en augmentation ou pas? Qu'est-ce qu'on observe sur notre continent?
Non, sur le continent européen, il y a beaucoup de variabilité. Alors, on observe effectivement, on a observé dans les dernières années quelques feux très grands, mais il y a des évolutions très variables suivant les pays. Mmh. D'un côté, il y a en toile de fond le changement climatique qui est là, ça c'est indéniable, il fait globalement plus chaud et il y a des périodes de sécheresse plus longues. Mais d'un autre côté, la présence des méga-feux ou leur développement va dépendre aussi de comment est organisé le paysage, quelle est la quantité de végétation combustible dans le paysage, comment sont gérés les feux, comment ils sont aussi, comment on les prévient, comment on lutte contre ça.
Alors Sébastien Lahaye, on le disait tout à l'heure, vous avez réalisé donc cette thèse sur les grands feux australiens donc en Nouvelle-Galles du Sud, où vous avez vécu pendant un an l'année dernière. La situation, ce qui se passe précisément aujourd'hui dans cet endroit du monde, est-ce que c'était prévisible pour vous qui avez étudié le sujet il y a quelques mois ?
Alors oui, c'était prévisible et d'ailleurs c'était prévu, y compris par les Australiens, hein, par les pompiers, par les services qui sont en contact de la problématique. En fait, ce qui se passe en Australie, déjà il faut bien comprendre que l'Australie, c'est évidemment immense. Il vaut mieux le rappeler, même si ça paraît évident. L'Europe tout entière peut s'inscrire dans la surface de l'Australie, hein, de Brest à Moscou et de la Finlande à la Grèce. Donc c'est tellement grand qu'il y a une variabilité là aussi de paysages et de climat. Le nord de l'Australie est sous climat tropical, donc avec une saison sèche qui a pris fin et maintenant c'est la saison humide. Il y a d'ailleurs des cyclones en cours sur le nord de l'Australie. Et le sud de l'Australie, on y a et du climat désertique dans le centre du pays, du climat méditerranéen sur la côte ouest et du climat océanique sur la côte est. Là où la côte est qui fait l'objet de toutes les attentions aujourd'hui. Une particularité de l'Australie, c'est que pendant 40 000 ans, les aborigènes qui occupaient l'espace utilisaient le feu de façon continue tout l'hiver. La technique du bâton de feu qui consistait à brûler des petites surfaces dès que les conditions météo le permettaient. Et cette technique ancestrale a été complètement abandonnée depuis l'arrivée des colons au XVIIIe siècle. Mm-hmm. Ce qui fait que ce qui s'est passé depuis plus de 200 ans maintenant, c'est une augmentation de la biomasse et une croissance très forte des forêts. Et qui est une des composantes, comme le rappelait Thomas, qui mène à ces grands feux aujourd'hui. Donc oui, la situation était prévisible et prévue. Oui.
Ouais. On dit que ces feux sont justement par leur ampleur totalement incontrôlables. Est-ce que les pompiers australiens aujourd'hui ont de véritables moyens pour lutter efficacement contre ces phénomènes extrêmes ?
Oui, alors les pompiers australiens sont très bien équipés. Ils ont d'ailleurs des moyens qui ressemblent fortement à ce qu'on trouve en France et en Europe. Hein. Ils luttent contre les feux avec des avions, des hélicoptères et des camions au sol. Ce que les Australiens ont aussi, c'est qu'ils ont découvert, parce que c'est quand même pas la première saison dramatique qu'ils ont, ils ont découvert depuis plusieurs années que face à ces feux extrêmes, la lutte était dans l'incapacité de résoudre le problème et qu'il fallait d'une part faire plus de prévention et surtout plus de sensibilisation et d'information de la population. Donc aujourd'hui, l'action des pompiers australiens est focalisée là-dessus, c'est-à-dire qu'au-delà des camions et des avions qu'ils envoient, ils passent beaucoup de moyens et de temps à communiquer avec la population pour leur expliquer où sont les feux, ce qu'ils vont faire et permettre aux gens de se protéger.
Et ça a porté ses fruits puisqu'il y a heureusement moins de morts, même si ils sont à
26.
Au nombre de 26. Il y en avait eu 230 en 2009 dans l'état du Victoria qui avait véritablement traumatisé le pays. Aujourd'hui, il y a une controverse entre justement les écologistes et les climato-sceptiques sur les raisons aussi de la survenue de ces feux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, Sébastien Lahaye ?
Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que s'il n'y avait pas cette végétation aussi dense au sol et qui est aussi peu recoupée, c'est-à-dire si on n'avait pas ces immenses étendues de végétation, on n'aurait pas des feux de même intensité. Mmh. Mais pour autant, le problème est beaucoup plus ancien que ça. Je vous le disais, ça date de c'est plus de 200 ans d'abandon du sol qu'on paye aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite aux différents drames qu'ils ont eus, dont le Black Saturday en 2009 que vous évoquiez il y a deux minutes. Il y a un programme de brûlage dirigé, donc de management, c'est-à-dire de réduction de la biomasse combustible au sol par l'emploi du feu l'hiver, qui est de plus d'un million d'hectares par état. Donc le New South Wales a un programme d'un million d'hectares, le Victoria aussi, grosso modo, les autres c'est pareil. Donc c'est un programme qui est bien au-dessus de ce qu'on peut faire en Europe et en France. À titre de comparaison, en France, le programme de brûlage dirigé que l'on essaye de réaliser chaque année s'élève à moins de 2000 hectares. Donc on est sur des choses totalement différentes. Après, il est vrai que brûler un million d'hectares en période hivernale, c'est pas facile, parce que il faut que la fenêtre météo soit ouverte, et puis surtout ça produit des fumées, et on a vu ce que ça fait quand on propage des fumées sur une ville telle que Sydney. Il y a des questions de préservation de la biodiversité aussi, donc toutes ces questions font que certainement ces un million d'hectares par état sont des programmes difficiles à atteindre.
Voilà. Et comment vous voyez les choses là dans les semaines, dans les mois qui viennent? On dit que ça va encore durer énormément ces incendies majeurs en Australie, Sébastien Lahaye.
Oui, alors ça va durer parce que la saison estivale se décale du nord vers le sud à cette période, c'est comme tous les ans. Dans l'état du New South Wales, donc celui de Sydney dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, la saison a démarré début septembre et on est plutôt sur la fin de la saison, la fin janvier. Ouais. Mais maintenant, le risque est beaucoup plus important dans la partie sud du pays, donc l'état du Victoria, c'est la ville de Melbourne, une très grande ville aussi, et puis l'état d'Australie du Sud, donc Adélaïde. Donc ces deux états entrent dans leur saison estivale, ces deux états cumulent le même déficit de pluie et sont aussi très secs, donc on peut s'attendre en effet à ce que ces feux dramatiques durent au moins jusqu'à fin février, voire fin mars.
Vous restez avec nous Thomas Kurt et Sébastien Lahaye, les auditeurs de la Terre au Carré ont beaucoup de questions à vous poser, on vous les transmet évidemment dans un instant.
France Inter. La Terre au Carré.
Et Camille, justement, avec vous, on voit les conséquences pour la biodiversité de cette situation en Australie.
Oui, je vous parlais lundi du nombre d'animaux possiblement morts, plus d'un milliard. Et on ne parle que de ceux dont on a des données sur les densités de population. Presque 80% sont des reptiles, les autres des oiseaux ou des mammifères, comme les kangourous, les koalas, les wombats ou des rongeurs. Ce milliard n'inclut pas, je le rappelle, les grenouilles, les poissons et les insectes, par exemple. Parce que des chercheurs français, cette fois, estiment ce matin qu'en comptabilisant toute la chaîne de la biodiversité, ce sont au moins 1 million de milliards d'animaux qui ont péri. 1 million de milliards, si on l'écrit, il y a 15 zéros après le 1, Mathieu. Des enchères de la mort dont on se demande jusqu'où elles vont aller, parce que le bilan n'est pas définitif, puisque les incendies, on le disait, la sécheresse sont toujours en cours. Donc le chiffre, évidemment, ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que les hectares touchés s'étendent. Alors, quelles conséquences à moyen et long terme pour la biodiversité? J'en ai parlé avec l'homme à l'origine des premières estimations, le professeur en écologie Christopher Dickmann de l'université de Sydney, qui, malgré le cauchemar que représentent ces chiffres, n'est pas totalement pessimiste.
D'une façon générale, le bush va s'en remettre. Les arbres, les arbustes vont repousser et dans certaines zones, beaucoup d'animaux réapparaîtront. Les eucalyptus vont repousser très vite. Mais pour certaines fleurs, ça prendra des dizaines d'années.
Voilà, j'ai commencé par le petit message d'espoir parce que le reste est déprimant. Plusieurs espèces de la faune sauvage pourraient disparaître, à commencer par certaines chauves-souris qui représentent un quart des mammifères endémiques d'Australie.
Il y en a qui sont particulièrement touchés par les incendies, ce sont les petites chauves-souris de forêt, très dépendantes des arbres et qui ne savent pas bien voler, donc elles ne peuvent pas s'échapper des flammes. Beaucoup d'entre elles vont mourir, mais on ne sait pas combien car on n'a pas de données de densité en ce qui les concerne.
Idem pour les renards volants, pour qui la situation est catastrophique, et ce n'est pas tout.
Il y a une espèce qui s'appelle le potoroux à longues pattes. Une variété de kangourou rat, un rongeur qui ne vit qu'à l'est du Gippsland, dans l'état de Victoria. Tout leur habitat a brûlé. Donc, il est possible que, oui, cette espèce disparaisse.
Et puis il reste des points d'interrogation car certaines zones ont été touchées mais aucun homme n'y a jamais mis les pieds donc on ne sait pas encore l'ampleur des pertes. Cette fois c'est le porte-parole de l'association de défense des animaux sauvages Wires, John Grant, qui explique.
Il existe des poches dans le bush où on ne trouve que certaines espèces. Et on ne saura pas avant un moment si ces colonies-là ont été détruites, si l'espèce est éteinte. Mais j'ai peur que ce soit le cas. Je sais par exemple que sur la côte nord de Sydney, nous avons une espèce particulière d'émeu, très rare. Les incendies ont touché cette zone. On n'a pas encore eu de retour pour savoir si ces émeutes ont été repérées, s'il en reste suffisamment pour que l'espèce soit préservée.
Et ce ne sont que quelques exemples. Vous avez certainement vu passer aussi cette information sur les dromadaires sauvages qui, en période de sécheresse, s'approchent des villes pour trouver de l'eau et sont vus comme des menaces pour les réserves et la population. 10 000 d'entre eux devaient être abattus en 5 jours cette semaine dans le centre du pays. Des snipers qui leur tirent dessus par hélicoptère. Les autorités expliquent que ces abattages massifs d'animaux considérés nuisibles sont courants en Australie.
Un gouvernement d'ailleurs, Camille, très critiqué.
Oui, les images du Premier ministre Scott Morrison, à qui des habitants refusent de serrer la main, ont fait le tour du web. Voilà, comme les insultes à la télé australienne notamment.
Tell the Prime Minister to go and get from Nelligan.
Go and get fucked. Ici, on ne bip pas les insultes, mais je ne vais pas les traduire. Pompier excédé de la ville de Nelligan. Scott Morrison est rentré Fissa d'Hawaï où il passait Noël. Un premier ministre climato-sceptique. Voilà ce qu'il faisait il y a 2 ans. Il était ministre des Finances au Parlement.
This is coal. Don't be afraid. It's coal.
Voilà, il brandissait un bout de charbon en expliquant que cette énergie fossile a permis aux entreprises australiennes de rester compétitives et dont elles ont encore besoin. Au sujet des incendies, il n'a pas voulu les imputer uniquement au réchauffement climatique. On en parlait. Écoutez ce qu'il en disait il y a quelques jours. Mathieu, c'est vous qui traduisez.
C'est l'un des nombreux facteurs. Il n'y a pas de doute sur le lien entre le changement climatique et les catastrophes naturelles partout dans le monde. Mais je suis sûr que les gens reconnaîtront que faire directement le lien avec ces incendies-là, ça n'est pas crédible.
Et voilà, ça n'est pas crédible. Pendant ce temps, en tout cas, ça continue de brûler. Et voilà ce qu'écrit le philosophe australien Clive Hamilton dans une tribune au Monde aujourd'hui. Nous devrons faire le deuil de quelque chose de plus difficile à définir. Je le cite encore, la mort de l'avenir.
Ben, c'est pas très joyeux tout ça, effectivement. En tout cas, la situation donc sur le front des incendies en Australie et les méga-feux sur la planète. On en parle donc avec nos invités. Toutes vos questions en ce moment même au standard de la Terre au carré. La personne et ma sœur, surtout, c'était Clara Luciani à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Voilà, les incendies géants dans le monde et en Australie en particulier en ce moment avec mes invités, donc Thomas Kurt et Sébastien Lahaye en duplex des studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Et vos questions au standard, on va tout de suite rejoindre Nora qui est en ligne avec nous et qui souhaite vous poser une question, Thomas Kurt et Sébastien Lahaye. Bonjour Nora.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous, on vous écoute.
Oui, j'appelais. Alors après, alors je comprends pas depuis le mois de septembre pourquoi ils n'ont pas cherché à éteindre, pourquoi d'autres pays ne sont pas venus les aider à éteindre. Et est-ce qu'il y aurait pas un effet El Niño?
Alors, on va essayer de répondre à cette question. Sébastien Lahaye et Thomas Kurt, qui veut répondre à Aix-en-Provence?
Oh bah oui, bah là ça me fait bizarre.
Allez-y.
Oui. Oui, Sébastien, je peux répondre. Ce qu'il faut savoir, on l'a dit, c'est que la situation est telle qu'aujourd'hui, c'est pas une question de moyens à mettre pour la lutte. Même s'il y avait eu le double, triple d'avions, de pompiers, les conditions climatiques sont telles et la végétation accumulée est telle et tellement sèche que lorsque les incendies partent, ça devient des feux qui sont absolument impossible à éteindre. Donc ça, c'est pour le premier élément de réponse. Alors aujourd'hui, oui, il y a une prise en compte internationale et sous l'influence médiatique, on va envoyer quelques renforts, mais ça sera plus pour mettre un peu au repos les pompiers locaux.
Des Français, d'ailleurs, sont arrivés sur place. Hein.
Absolument, il y a 5 officiers qui sont sur place. J'étais en contact avec eux encore ce matin. Bon, mais ça va pas changer la phase des incendies. Voilà.
Et sur El Niño, alors, pour répondre à la question de Nora.
Oui, sur El Niño, cette année n'est pas une année de El Niño, donc c'est lié à la circulation atmosphérique générale. Et quand on est en période El Niño, en gros, il fait chaud au sec et il peut y avoir plus d'incendies. C'est pas du tout le cas cette année. Le signal El Niño est très faible. On est proche de la normale, légèrement au-dessus. Donc c'est clairement pas le facteur principal.
On a une question d'Anne-Laure par mail, peut-être plus pour vous, Sébastien Lahaye. Est-ce qu'on pourrait éviter les incendies en arrosant régulièrement les zones à risque avant que les feux ne se déclarent?
Non. Là encore, tout moyen technologique qu'on imaginerait serait dérisoire. On parle d'étendues de centaines de milliers de kilomètres carrés, de millions de kilomètres carrés qui sont prêtes à brûler. Donc, de la même façon qu'un Canadair sur ce type de feu est totalement impuissant, il faut bien comprendre qu'on parle de puissance de feu qui sont de l'ordre de 100 000 kilowatts par mètre linéaire de front de feu.
Ça veut dire
là
quoi
à titre de comparaison, un pompier avec sa tenue, il peut approcher jusqu'à 20 kilowatts de front de feu. Là, on parle de centaines de milliers de kilowatts. Donc, wow. Voilà. Même un Canadair ne peut absolument pas approcher et larguer de l'eau avant, non, c'est absolument pas possible. Non.
Thomas Kurt, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent qu'on ne parle jamais des incendies en Afrique, Californie, Amazonie, Sibérie, Australie, mais jamais le continent africain. Que se passe-t-il là-bas?
Pourtant, en Afrique, notamment dans toute la zone de savane, c'est là que finalement, en nombre de feux, on observe pratiquement le plus grand nombre de feux sur le globe. Simplement, c'est vrai que ces feux sont plutôt des petits feux faits par les habitants pour cultiver, pour nettoyer le terrain, etc. Par contre, il y a très peu de méga-feux. Alors que les méga-feux, quand on regarde sur le globe, ils sont aussi bien dans les milieux boréaux de haute latitude, en Sibérie, en Russie, au Canada, aux États-Unis, que dans les milieux de l'hémisphère sud comme l'Australie. Mais sinon, l'Afrique, oui, c'est un haut lieu d'activité, c'est ce qu'on appelle un hotspot de feu mondial.
Allez, au standard de la Terre au carré, il y a également Guilhem aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. J'appelle pour... Alors moi, ça va rejoindre les questions que tout le monde se pose sur les moyens aériens, en fait. Je connais donc un petit peu les conditions et généralement la dangerosité des manœuvres pour être pilote, pas malheureusement contre les incendies, mais pilote de ligne. Moi, ma question, ça portait sur le... Qu'est-ce qui nous empêche, en fait, d'employer massivement les moyens aériens, puisque ça nous permet d'accéder à des zones isolées. Et vous parliez des Canadairs, effectivement, de la puissance limitée des Canadairs dans la lutte. Mais est-ce que les nouveaux moyens, donc des avions américains, je parle de Boeing 747 qui pourrait employer jusqu'à 70 000 litres d'eau parfois, ou des avions russes, qu'est-ce qui nous empêcherait en fait d'utiliser ça en prévention et en lutte en fait?
Alors, qui veut répondre? Sébastien Lahaye peut-être sur cette question?
Oui. Oui, alors, les moyens aériens sont très efficaces, notamment en France, parce qu'ils sont utilisés dans le cadre d'une stratégie qu'on appelle l'attaque massive de feu naissant. Alors, un moyen aérien, en effet, c'est intéressant parce que ça permet d'aller vite à un endroit, et si on en met plusieurs, des avions, pas forcément des gros, mais plusieurs, et qu'on bombarde systématiquement un feu qui éclot, ça permet de le tuer dans l'œuf. C'est l'objet de la stratégie française, et ça marche très bien. À partir du moment où le feu a pris de l'ampleur, et encore une fois, c'est difficile de se rendre compte, mais là on parle de feux qui se déplacent à plusieurs kilomètres par heure, c'est la vitesse d'avancement des feux, qui génèrent des sautes de feu à plusieurs centaines de mètres, voire même plusieurs kilomètres, non seulement dans l'axe du vent, mais même sur les côtés. Et on parle de feux qui génèrent des nuages, qu'on appelle des pyrocumulonimbus, c'est des nuages qui montent à 20 000 mètres d'altitude, qui sont l'équivalent d'un cumulonimbus orageux. Donc vous comprenez bien que dans ces conditions, même les moyens aériens les plus lourds ne peuvent tout simplement même pas s'approcher. Et quand bien même il pourrait s'approcher, la quantité d'eau qu'il largue est encore une fois infime par rapport à l'intensité du feu.
Camille, une question.
Par rapport à ça, Patrice qui fait une remarque, hein, et il serait peut-être pas pensable, ce serait bien de créer une brigade internationale d'intervention au feu rapide et efficace où que ce soit dans le monde. Au regard des coûts exorbitants dépensés pour l'armement, le problème financier devrait être négligeable. On a une question de Thierry, peut-être pour vous, Thomas Kurt. Quels sont les effets à court terme à attendre sur le climat au même titre que les éruptions de volcans dans le passé proche ?
Est-ce que ces méga-feux pourraient jouer vraiment sur le climat ou pas ? Ou est-ce qu'on en est loin encore ?
Oui, là, je suis vraiment pas expert de cette partie-là, mais ce que disent les spécialistes, c'est que ça va quand même prendre un certain temps pour voir les effets sur le climat. À court terme, où il y a des effets, y compris météorologiques, des nuages de poussière, etc., des cendres, tout ce qu'on veut, les effets sur le climat sont quand même relativement à long terme, sur des décennies.
Thomas Kurt, justement, on entend beaucoup également aujourd'hui s'exprimer la philosophe Joëlle Zask, qui a publié un livre sur les grands feux, et qui, pour caractériser l'époque que nous vivons, justement, avec ces incendies majeurs, parle de pyrocène. On parle de l'anthropocène, mais elle parle même de pyrocène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes employés?
Ben, c'est toujours intéressant de développer des nouveaux concepts et de nouveaux termes pour des objets scientifiques ou des objets de la vie courante qui nous paraissent nouveaux. Bon, le terme pyrocène a été déjà développé avant, utilisé, mais pyrocène, pyro, c'est le feu, hein, en grec, et scène, c'est pour la période. Effectivement, c'est pour dire qu'on est dans une période dans laquelle les incendies, le feu, peut jouer un rôle important. Après, pour travailler dans un institut dans lequel il y a d'autres aléas, d'autres risques naturels comme les inondations ou les tremblements de terre, les séismes, malgré tout l'intérêt que j'ai pour les incendies, je décrirais pas le système actuel comme simplement une pyrocène. Ça fait partie, effectivement, les incendies de forêt se développent et malheureusement, à moins de gérer très bien les paysages, la végétation, l'urbanisation, etc., la prévention, et de s'adapter. Pour l'instant, on ne voit pas bien comment sortir de ce type de situation comme celle qu'on vit en Australie.
Ouais. Est-ce que ça pourrait être un problème dans les décennies à venir pour la France métropolitaine? Parce que des feux existent déjà, hein, dans le sud de la France, en Corse, etc. Mais est-ce que ça pourrait devenir un problème majeur pour notre pays?
C'est un problème qui, en tout cas, n'a pas du tout l'ampleur, l'échelle spatiale de ce qu'on voit en Australie. Par contre, on sait, effectivement, ça a été bien étudié par Météo France et par différents instituts en France, que le risque d'incendie de forêt, les périodes à risque d'incendie de forêt, dans le sud de la France, donc vous citiez la Corse, c'est aussi tout le sud de la France, ou même ailleurs en France, ces zones à risque, elles ont tendance à s'étendre géographiquement vers le nord, puisque avec le réchauffement climatique, ben les températures deviennent plus élevées. Du coup, ils s'étendent aussi un peu en altitude, c'est-à-dire que le risque se développe un peu en montagne. Et puis surtout, c'est ce qu'on observe aussi en Australie cette année, il y a une extension saisonnière dans le temps. Avant, on avait tendance à voir 90% des feux, on va dire, dans le sud de la France en juillet-août. Maintenant, on a beaucoup de feux en juin. Vous vous souvenez peut-être aussi des feux de juin au Portugal, il y a deux ans. Et on a des feux souvent jusqu'en octobre. Des feux de relativement grande dimension. Donc il y a, ça, c'est vraiment le changement climatique qui est à l'œuvre derrière le système.
Sébastien Lahaye, très rapidement, vous qui avez été sapeur-pompier, on parle souvent du feu en lui-même, mais il y a également les fumées dans un incendie qui sont très importantes, qui font beaucoup de dégâts. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Très vite.
Oui, bah, c'est ce qu'on a vu en Australie. Le problème, c'est surtout sur ces incendies de très grosse intensité, il y a un dégagement massif de fumée qui est évidemment totalement incontrôlable. Et derrière, on peut surtout se poser la question des conséquences sur la santé publique qui sont importantes. Pour synthétiser, je dirais globalement, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec le feu ou qu'on réapprenne à vivre avec le feu, parce que la situation qu'on a en Australie aujourd'hui risque de devenir le commun des années à venir à plusieurs endroits dans le monde.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour vos éclairages, Thomas Kurt et Sébastien Lahaye. Merci aux équipes de France Bleu Provence, donc à Aix, qui nous ont permis de réaliser ce duplex cet après-midi. Merci à vous, auditeurs, également pour vos questions. Juste après les infos, la chronique détox du vendredi de Caroline Tourbe, intitulée aujourd'hui « Météo et climat, même combat ». On peut se laver quand même, non? Au menu de cette deuxième demi-heure dans la Terre au Carré, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Laetitia, qui est designer près de Nantes et qui propose, vous verrez, des petites maisons éco-conçues sur remorque sans téléphone à l'intérieur. Ça s'appelle les tiny houses. Et puis enfin, nos invités découvertes, les chercheurs Benoît Pujol et Serge Plane, vont nous parler des poissons clowns qui n'arriveraient plus à s'adapter aux modifications de leur environnement. Mais pour le moment, Caroline Tourbe, c'est l'heure, comme tous les vendredis, de votre chronique détox, météo et climat, même combat.
Et pour commencer cette chronique, Mathieu, je voudrais que nous nous replongions dans la vague de froid historique qui s'est abattue sur le nord des États-Unis il y a tout juste un an. Nous sommes donc en janvier 2019. Des masses d'air descendues directement de l'Arctique ont transformé la moitié du pays en annexe du pôle Nord.
Partout, une couche blanche immaculée, un paysage somptueux mais des températures polaires. Il faut remonter à la fin des années 90 pour retrouver un temps aussi extrême dans cette région des Grands Lacs, au nord-ouest des États-Unis. Côté ressenti, les météorologues parlent de moins 50 degrés. L'explication, le vortex polaire, une masse d'air froid qui descend du pôle Nord.
Alors les chutes du Niagara sont gelées, la neige s'accumule, il fait moins 50. Le président Donald Trump va alors tweeter une courte analyse de la situation qui va rester dans les annales du climato-scepticisme.
Et il disait, dans la belle région du Midwest, les températures ressenties atteignent moins 60 degrés Fahrenheit, le plus froid jamais enregistré. Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique mondial? S'il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi.
Merci Mathieu, vous faites très bien Donald Trump. C'est la deuxième fois dans l'émission que vous faites un climato-sceptique.
C'est
bravo.
Vrai.
Alors évidemment, cette tirade n'a pas fait rire les scientifiques, les tempêtes hivernales ne prouvent pas que le réchauffement climatique a disparu. Trump tombe ici dans un piège classique.
Confondre climat donc et météo. Hein,
exactement.
C'est ça, le piège.
De manière très simple, la météo fait référence aux conditions quotidiennes de l'atmosphère, soit la température maximale, la quantité de couverture nuageuse, la vitesse, la direction du vent ainsi que les précipitations. Alors que le climat,
Quant à lui, décrit quoi?
Eh bien, les conditions atmosphériques moyennes sur plusieurs années. Dans le modèle standard, les climatologues utilisent une période de 30 ans. Ainsi, la période de référence actuelle s'étend elle de 1981 à 2010. Le climat prend en compte les conditions atmosphériques, océaniques, mais aussi astronomiques, les quantités d'énergie que nous envoie le Soleil, et également des paramètres liés à l'activité humaine. On parle évidemment de la présence des gaz à effet de serre. Comme le dit David Salas-Imelia, responsable de la modélisation du climat à Météo France, la météo, c'est ce que vous avez, et le climat, c'est ce que vous attendez. Et moi, si je devais filer une métaphore vestimentaire, je dirais que la météo correspond à notre tenue du jour. Alors, petit pull, pantalon élégant, mais tout ça assez léger. Alors que le climat correspond, lui, à l'ensemble de notre garde-robe.
Ah, c'est bien,
sa composition reflète les conditions climatiques que l'on s'attend à croiser dans un pays, avec dans son placard plus ou moins de shorts, de t-shirts, de gros manteaux ou d'écharpes.
Donc la météo ne peut rien dire du climat, Caroline?
Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle est trompeuse. Par exemple, pour les phénomènes météorologiques extrêmes, comme celui dont nous parlait Donald Trump l'année dernière, la réponse correcte est « on ne peut pas dire que tel événement précis est lié au réchauffement climatique, car statistiquement, cet événement aurait pu également se produire au 19e ou au 20e siècle ».
On peut compléter quand même cette réponse.
Oui, et pour appréhender les changements climatiques rapides que nous vivons déjà, on peut ajouter un calcul de probabilité. David Salas-Imela en parlait, par exemple pour la canicule du mois de juin 2017, en prenant comme référence le climat 1971-2000, on peut dire que oui, cette période aurait pu également se produire à ce moment-là, mais avec une probabilité d'une fois tous les 100 ans. Maintenant, si on regarde le climat actuel, cette vague de chaleur a une probabilité de se reproduire une fois tous les 20 ans. Si on se place en 2030, la probabilité passe à une fois par décennie, et en 2050, ce sera une fois tous les 5 ans.
Alors, la semaine dernière, une étude a montré pour la première fois que le changement climatique est déjà visible, Caroline, au quotidien, si l'on regarde la météo à l'échelle mondiale.
Oui.
連休中、土曜日は晴れるところが多くなりますが。Olha só, a meteorologia prevê mais um Dia instável.
En fait, la perturbation d'hier poursuit sa route. On la retrouve du sud-ouest au nord-est avec des pluies.
Today is very different. Good spells of sunshine and staying dry, but despite the sunshine.
Incluso con precipitaciones en forma de nieve, como podemos observar en el mapa, sobre todo en la zona.
Alors en fait, c'est une étonnante étude qui a été publiée la semaine dernière. Elle prend la météo globale, donc sur toute la planète. Là, on a entendu le Japon, le Brésil, la Grande-Bretagne,
et
la
Marie-Pierre
France.
Planchon.
Exactement. Mmh. L'Espagne également. Donc partout dans le monde, on prend un jour donné. Et alors, cette étude montre que si on prend la météo sur toute la planète un jour donné, l'empreinte du changement climatique est déjà visible. Cette empreinte dépasse la variabilité de la météo quotidienne mondiale. Les chercheurs suisses qui sont à l'origine de cette étude ont comparé les données météo actuelles aux moyennes de 1951 à 1980 et on voit que depuis 2012, il n'y a pas une seule journée sur la planète qui aurait pu avoir lieu entre 1951 et 1980 dans leur étude. Elles sont toutes trop chaudes au niveau mondial. Alors oui, dans ce cas précis, Donald Trump pourrait dire que la météo du jour est bien le reflet du réchauffement climatique et ne lui en déplaise, eh bien ça chauffe.
Merci Caroline Tourbe, chronique détox à réécouter évidemment sur le site de la Terre au Carré. À la semaine prochaine.
France Inter. La Terre au Carré. Vos solutions pour la planète.
Et Laetitia est avec nous en ligne. Bonjour.
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 Bonjour Laetitia, vous nous appelez du Palais, c'est à côté de Nantes. Vous êtes designer et cofondatrice de Tiny House Baluchon, qui propose donc des petites maisons éco-conçues sur remorque. Racontez-nous d'abord comment votre aventure a commencé, parce que je crois que vous avez construit au départ vous-même votre petite maison, c'est ça, hein?
C'est ça, en fait, le projet Baluchon est d'abord né de deux projets dissociés d'autoconstruction, puisque mon associé et moi-même, on a bien fabriqué nous-mêmes nos tiny houses. Donc moi, dans la région nantaise, et Vincent Bourg en Mayenne. Et puis, après avoir terminé ces deux réalisations personnelles qu'on habite aujourd'hui l'un et l'autre, on a décidé de monter une entreprise, tout simplement pour fabriquer ces petites maisons pour d'autres personnes, les personnes qui n'auraient pas souhaité auto-construire.
Ouais. Alors Laetitia, ouvrez-nous les portes, s'il vous plaît, de votre petite maison. On va être indiscret quelques instants. Et faites-nous une petite visite. Ça ressemble à quoi alors?
Alors, une tiny house, ça fait environ 13 mètres carrés au sol, et en général, la chambre se trouve en étage. Donc, dans ma tiny, on entre par le salon. Il y a un petit coin canapé, et puis une table pour manger à deux. Il y a également une commode où je range toutes mes affaires et tous mes vêtements. Et puis ensuite, on trouve la cuisine et la salle de bain, et pour finir, la chambre là-haut.
Voilà. Et évidemment, il n'y a pas de baignoire dans la salle de bain. Hein.
Si, tout à fait.
Ah bon ?
Une baignoire dans ma salle de bain.
Ah, mais pourquoi une baignoire ?
Alors là, c'est un choix personnel, c'était pour pouvoir laver mon chien, tout simplement.
Mais alors, est-ce que tout est écolo? Parce que moi, j'ai vu un reportage, vous avez même des toilettes sèches dans leur tiny house. Est-ce que c'est le cas chez vous, par exemple?
C'est le cas dans ma tiny, et c'est le cas dans toutes celles qu'on a construites au sein de l'entreprise, oui.
Alors cette idée, est-ce que d'abord c'est un phénomène un peu de société, parce qu'on en entend de plus en plus parler, effectivement, mais est-ce qu'on arrive à le mesurer, ou ça reste quand même assez marginal?
Ça reste nouveau puisque les tiny sont apparus en Europe il y a 5 ans environ, donc c'est très récent si on compare à nos voisins lointains des États-Unis qui ont commencé leur aventure eux il y a 15 ans. Nous voilà, c'est le tout début. Alors je sais pas exactement combien on peut répertorier de tiny house en France, mais je pense que ça tourne autour des 500 maisons. Ouais.
Laetitia, je vais vous poser une question avec un autre anglicisme qu'on connaît bien. Quelle différence entre une tiny house donc récente et un mobile home qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on voit dans tous les campings en l'occurrence?
C'est une bonne question. Bah, contrairement à son nom, le mobile home, pour commencer, n'est pas tout à fait mobile puisqu'on ne peut pas le tracter sur nos routes, c'est-à-dire qu'il doit être placé sur un poids lourd en fait pour être déplacé. Il n'a vraiment des roues que pour pouvoir être déplacé dans l'atelier de fabrication puis sur le terrain. La tiny, en revanche, peut être tractée par un véhicule à tout moment, donc sur le principe d'une remorque qui transporterait un petit
caravane.
Chalet.
Une caravane.
Alors, les différences sont également nombreuses avec la caravane, puisque si on prend l'exemple de la fabrication de caravane qui est constituée de murs de 3 cm d'épaisseur environ, la tiny house, elle, est une réalisation artisanale, tout en bois, dont les murs mesurent environ 17 cm d'épaisseur, donc qui est bien plus performante, et c'est ce qui en fait une excellente habitation à l'année.
Alors Laetitia, c'est vrai qu'on les a vus apparaître aux États-Unis pour des raisons particulières d'ailleurs, c'était au départ des habitats d'urgence après l'ouragan Katrina par exemple, pour les personnes qui n'avaient plus de maison.
Exactement.
Ou pendant la crise des subprimes aussi, pour des raisons vraiment économiques. Vous, pourquoi vous avez fait ce choix de vivre dans 13 mètres carrés avec votre chien, j'ai bien entendu?
Ça a vraiment été un coup de cœur, la Tahini, en réalité, parce que je trouve que, alors déjà, on a la possibilité de s'affranchir de pas mal de biens matériels qui ont tendance à nous emprisonner un petit peu dans notre quotidien. C'est un excellent moyen de se rapprocher de la nature, puisqu'en général, quand on a une petite maison, on a un grand jardin à côté qui permet de compenser. Et puis, d'un point de vue financier, c'est aussi très intéressant, puisque ces petites maisons, elles réclament très peu de ressources en échange de ce qu'elles apportent. Donc, c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que la Tahini me semblait bien correspondre à mon mode de vie.
Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, ou en tout cas de plus en plus ?
Oui, on a pas mal de demandes. On a pas mal de demandes. Après, au sein de Baluchon, on ne fait pas que construire des Tahini pour d'autres personnes. On encourage également les démarches d'autoconstruction, puisque c'est notre parcours, et bien mon associé à moi-même. Donc, on a également développé des outils pour faciliter le parcours des autoconstructeurs, puisque certaines personnes ne souhaitent pas faire appel à des constructeurs pour fabriquer leur maison. Ils souhaitent le faire par eux-mêmes. Et on comprend très bien cette démarche également. Donc, ça fait aussi partie de nos petites missions.
Et Laetitia, pour terminer, évidemment, parce que c'est quand même le plus important, sur la filière que vous utilisez, la filière bois par exemple, les matériaux, tout ça est vraiment écologiquement viable? Vous faites très très attention à toutes les étapes de la construction?
Oui, on est très vigilant déjà au niveau du choix des matériaux, puisqu'on utilise par exemple que du bois massif. On va exclure tout ce qui va être également bois exotique, parce qu'on n'a pas envie de participer à la déforestation des forêts primaires. Donc on est assez vigilant sur tout ça. On utilise des isolants qui sont biosourcés, végétaux. Et puis après, dans le mode de fonctionnement de l'entreprise en elle-même, on est fourni en énergie par Enercob, donc on encourage vraiment les énergies renouvelables. On investit également dans des projets de compensation volontaire pour participer au reboisement de forêts en France. Et on revalorise pas mal de nos déchets. Donc c'est vraiment un projet global. On pense que des petites entreprises comme la nôtre peuvent faire ce genre d'effort. Et puis peut-être, qui sait, en inspirer de plus grandes.
Combien ça coûte, Laetitia, une tiny house, si j'en veux une ce week-end et changer complètement de vie?
Alors si vous la voulez ce week-end, ça ne va pas être évident.
Si j'en veux une en 2020, c'est le début de l'année.
Le prix de la tiny en soi va beaucoup dépendre de ce que vous souhaitez à l'intérieur et de également est-ce que vous les souhaitez autoconstruire ou est-ce que vous souhaitez nous en confier la réalisation. Et si vous décidez de nous en confier la réalisation, en général nos tarifs pour une tiny house assez grande, clé en main, le tarif avoisine souvent les 75 à 80 000 euros TTC.
Donc c'est quand même un coût, effectivement, sur ces maisons dont le mètre carré, on l'a dit, est peu important sur la surface totale. Merci beaucoup Laetitia, en tout cas, pour toutes ces précisions. On a mis évidemment en lien le site de tinyhouse-baluchon.fr sur le site de vos solutions pour la planète. Et vous aussi, si de votre côté, vous avez des choses intéressantes dont vous souhaitez nous parler, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur la page de l'émission. Allez, dans un instant, on parle des poissons clowns qui ont de sérieux problèmes visiblement pour s'adapter aux modifications de leur environnement.
Stay.
Walking in the Dark, Métronomie.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau.
Un bateau? J'en ai vu un beau qui passait il n'y a pas une minute. Il est parti... Par là. Il est parti par là. Suivez-moi.
Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous me l'avez déjà dit de quel côté il était parti ce bateau?
Ah oui? Oh non.
Bon, écoutez, si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. Et je m'y connais en blagues. Je suis poisson clown.
Voilà, le monde de Nemo, Camille, pour parler de ces poissons clowns qui n'auraient plus la capacité génétique de s'adapter aux modifications de leur environnement. En tout cas, c'est ce que viennent de démontrer des scientifiques du CNRS et des collègues étrangers dans une étude publiée donc en novembre dans la revue Ecology Letters. Et pour nous en parler, nous sommes avec les chercheurs Benoît Pujol et Serge Plane. Bonjour à vous deux.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes Benoît Pujol, chercheur CNRS au CRIOB, c'est le laboratoire d'études des récifs coralliens. Serge Plane, vous êtes chercheur CNRS au Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement de Perpignan. Et vous avez notamment dirigé l'expédition Tara Pacifique. Racontez-nous comment vous avez travaillé pour mener avec vos confrères cette enquête là sur les poissons clowns. C'était quoi la question de départ en fait?
Oh, au début, c'était une vieille histoire. C'est une histoire qui remonte maintenant à presque une quinzaine d'années, 20 ans. C'est un très long suivi pour essayer de comprendre, en fait, à quel point les poissons clowns revenaient vers leur anémone. Un peu comme l'histoire de Nemo, essayer de comprendre à quel point le petit poisson clown revenait dans l'anémone de son papa. Ou est-ce que, au contraire, il allait se balader et voir d'autres anémones? Donc, c'était ça la première question initialement, voilà.
Et donc, ensuite, comment vous avez fait la méthodologie, là, pour suivre des poissons clowns en milieu naturel, hein, c'est ça?
Oui, ben c'est ça le challenge, c'est surtout de pas perturber l'individu et de toujours le remettre dans l'anémone où il est. Donc en fait, tout se passe en plongée bouteille, tout se place sous l'eau et on capture le poisson entre deux petites épuisettes, on lui coupe un petit bout de nageoire qui repousse au bout d'une quinzaine de jours, trois semaines, et avec ce petit bout de nageoire, eh bien on peut savoir toute sa génétique sans avoir à le sacrifier, sans avoir à le tuer, et on le remet surtout dans son anémone, ce qui permet de le suivre au cours du temps, tous les deux ans, de retourner, de revenir. Alors on lui recoupe un petit bout de nageoire, il est pas content de nouveau, mais je dirais au bout de trois semaines il revient un peu comme il était.
Bon, vous êtes sûr qu'il ne souffre pas, parce qu'on va recevoir des messages d'auditeurs, vous le savez quand même, hein?
Non, ça repousse complètement et c'est des zones qui ne sont pas innervées, donc forcément c'est des zones qui n'ont pas de sensibilité.
Et pourquoi le poisson clown particulièrement? Est-ce que c'est parce que c'est un animal, comme on dit, charismatique, que tout le monde connaît et qui du coup peut être une porte d'entrée vers une situation plus large, ou est-ce qu'il a un intérêt particulier aussi par rapport à la biodiversité?
Alors c'est en premier lieu parce que c'est un modèle biologique, comme vous savez, comme la souris peut être un modèle biologique ou le moustique peut être un autre modèle biologique. C'est un modèle biologique sur lequel chaque fois qu'on y retourne, eh bien, et qu'on voit une anémone, on sait qu'il y a un poisson clown dedans, et du coup c'est toujours le même. Et comme on le sait qu'il ne bouge pas beaucoup, ça nous donne un modèle biologique qui est assez stable, qui est assez fiable, et qui du coup nous permet de suivre des questionnements dont Benoît va parler, qui sont des questionnements plus d'évolution et de capacité d'adaptation face à un changement de l'environnement.
Alors Benoît Pujol, justement, passons vraiment au volet génétique hein, et adaptatif de cette étude. Qu'est-ce que vous avez montré alors exactement?
Alors en fait, cette étude, elle montre que la population de poissons clowns dans la baie de Kimble, là où on a fait le suivi, n'a pas le potentiel génétique à s'adapter. Alors, pour revenir sur la question que vous aviez posée juste avant, un des intérêts justement du poisson clown, c'est d'avoir ce suivi à long terme qui est très rare chez toutes les espèces en général, même les espèces terrestres, et qui est le seul moyen à ce jour de pouvoir faire de telles études.
Alors donc c'est-à-dire qu'on peut faire un suivi sur plusieurs générations, c'est ça que vous laissez entendre?
Tout à fait. En fait, sur la base des prélèvements de tissus, on va récupérer l'ADN et grâce à ça, en fait, on va pouvoir identifier quels sont les parents des différents individus et avoir leur généalogie. Et grâce à cette généalogie, au fait de savoir qui sont les parents de qui, on va pouvoir identifier le succès reproducteur des individus, et c'est ce succès reproducteur qui va nous permettre de vérifier la capacité d'adaptation des populations.
Et là, ils ne s'adaptent pas parce que justement les récifs changent beaucoup trop en raison du changement climatique?
Non, alors c'est pas exactement ça. En fait, c'est pas qu'ils ne s'adaptent pas, c'est qu'il n'y a pas la variation génétique pour pouvoir s'adapter. Pour pouvoir vous donner un exemple, je vais prendre l'exemple des humains et de la taille, qui est un exemple assez commun dans ce cas-là. En fait, la moitié de vos gènes viennent de votre père et la moitié de vos gènes viennent de votre mère. Et ça, en fait, votre taille, c'est la moyenne de celle de vos parents. Eh bien, comme on peut le voir chez les humains, il y a des gens grands, il y a des gens petits. ce qui veut dire qu'il y a des gènes pour être grand et des gènes pour être petit. Eh bien, chez les poissons clowns, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il n'y a pas de gènes pour se reproduire plus et pas de gènes pour se reproduire moins. Tout le monde se reproduit de la même manière. Et donc, s'il faut changer... Eh bien, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de gènes différents.
Donc, Benoît Pujol, ce que vous nous dites là, c'est qu'il y a finalement un manque de diversité génétique, précisément, qui pose un problème pour ce poisson ?
Tout à fait.
Et donc, vous pouvez développer un peu là-dessus ?
Oui, eh bien, en termes de variation génétique, ici, bien sûr, on ne parle pas des aspects moléculaires. On n'était pas allé au niveau moléculaire regarder les gènes en particulier. Par contre, c'est de la génétique quantitative qui se base sur des statistiques. Et donc, sur la base de la généalogie, en fait, on peut retracer, comme je disais tout à l'heure, les individus qui, parce qu'ils produisent plus de descendants, vont envahir la population et vont lui permettre de se renouveler. Mmh. Puisque cette population, elle va avoir des individus qui viennent de loin.
Oui.
Et il va aussi avoir des individus qui vont être recrutés localement. Et ce recrutement local, en fait, permet... sur plusieurs générations, d'avoir des familles entières. Et donc, comme elles vont être confrontées aux conditions environnementales, c'est sur la base de ces générations successives que l'adaptation va pouvoir avoir lieu sous couvert qui est de la variation génétique.
Et là, justement, c'est ce qui manque, là, précisément, hein, dans vos observations. Hein, c'est le manque de diversité.
Tout à fait. Après, il ne faut pas se concentrer que sur la variation génétique pour l'adaptation. Et il ne faut pas se dire que ce poisson clown n'a aucune chance de survivre au changement climatique ou de s'adapter dans la future. Il y a d'autres événements non génétiques qui peuvent intervenir, comme des migrations de différents variants, et qui pourraient régénérer cette variation, par exemple.
Parce qu'il y a ce qu'il y a derrière tout ça, donc on a commencé à en parler, Serge Plane, c'est l'habitat et les récifs qui se dégradent avec le changement climatique.
Voilà, parallèlement à cet aspect, je dirais, génétique, et donc en fait, ce qu'on appelle le succès reproducteur, c'est la capacité finalement de chaque individu à transmettre et à donner plein de gènes. Et bien, ce qu'on observe, c'est que cette capacité, elle est pas, je dirais, fondamentalement basée sur la génétique, mais elle est principalement influencée par l'environnement. C'est-à-dire, en gros, c'est la qualité de l'environnement, la qualité de l'anémone, la qualité de ce qu'il y a autour de l'anémone et de la nourriture que vous allez avoir, qui va être le facteur principal du succès à la reproduction. Et donc, si vous dégradez cet environnement, et eh bien vous allez dégrader quelque part ce succès à la reproduction. Donc il y a vraiment, et c'est ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de montrer que certes la génétique est importante, parce que évidemment c'est ce qui nous permet de transmettre les gènes, et donc c'est aussi ce qui permet à des moments d'avoir par des modifications de l'adaptation, mais que dans ce cas-là, c'est surtout, je dirais, la qualité de l'environnement qui va être le facteur déterminant dans le succès du renouvellement de la population, dans le succès de la dynamique de la population. Et pour nous, ça c'est essentiel, parce que ça veut dire que il est essentiel de montrer que cet environnement doit être préservé. Et là, on entre dans toutes les questions de politique de conservation de l'environnement, dans un contexte évidemment où les récifs coralliens sont particulièrement affectés, notamment par le changement climatique qui entraîne des blanchissements et des mortalités très importantes de coraux et d'anémones, parce que l'anémone est finalement une espèce assez proche des coraux, et les anémones blanchissent également et peuvent subir des mortalités importantes.
Donc on voit qu'avec un sujet environnemental, on touche vraiment aussi à de la génétique ensuite sur des individus. Serge Plane, justement, vous nous parliez de cette relation privilégiée entre un poisson clown et son anémone. Est-ce que du coup, ça ne devient pas finalement un handicap d'être spécifiquement attaché à une anémone quand on est ce poisson dans les récifs coralliens là ?
En quelque sorte, toute relation privilégiée devient un handicap quelque part, parce que finalement, si dans cette relation vous avez un des deux partenaires qui faiblit, eh bien, il va avoir une répercussion pour vous. Donc, toute relation, je dirais, relativement privilégiée, qu'on appelle en termes scientifiques de la symbiose, quand même, pour revenir sur un aspect beaucoup plus concret, toute relation symbiotique est aussi, je dirais, cette relation d'entraide entre deux organismes, a une faiblesse, parce que cette faiblesse, c'est l'autre organisme qui peut l'avoir. Et elle est... Mais par contre, lorsque le fonctionnement est bien, par contre, c'est des systèmes qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus fonctionnels, qui sont très, très productifs.
Et là, ça s'est fait donc dans cette île de Kimbe, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, je crois qu'on l'a pas dit tout à l'heure. C'est un hotspot de la biodiversité, Serge Plane ?
Ah oui, c'est au niveau des récifs coralliens, ça fait partie, je dirais, de ce qu'on appelle le triangle de corail, c'est-à-dire, en gros, c'est la zone Philippines, Indonésie, Papouasie, où vous avez une multitude d'espèces et vous avez vraiment une florissance d'espèces au niveau des récifs coralliens. C'est vraiment la zone où vous allez trouver le plus de diversité dans les récifs coralliens. Et c'est aussi une zone, je viens de citer trois pays, hein, Indonésie, Philippines, Papouasie, qui sont des zones où il faut absolument avoir des politiques de conservation. En priorité, parce que on est dans des endroits vraiment très importants.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Étude parue donc dans la revue Ecology Letters. C'était en novembre dernier, autour du poisson clown et de sa génétique. Merci beaucoup. À lundi, Camille.
Mais
oui,
bon week-end.
C'est le week-end. Merci à Denis Delbecq à la rédaction en chef, Anna Massardier pour les réseaux sociaux, Thierry Dupin pour la programmation musicale.